Bien, bonjour. Je peux te présenter. Donc, je suis professeur d'urbanisme dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'École nationale des travaux publics de l'État. Et mon activité de recherche porte de manière globale sur l'épistémologie de l'urbanisme. L'histoire et l'épistémologie de l'urbanisme. Je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose de beaucoup moins dépaysant et exotique que les deux présentations précédentes. Je vais vous parler de deux choses. Je voudrais vous parler d'une part de la façon dont l'expression, le syntagme, dit-on en linguistique, développement durable, donc entre guillemets, développement durable est en effet une expression usuelle, voire normative. Je voudrais vous présenter une recherche qui a porté sur les fonctions et les usages de cette expression dans le discours public des acteurs de l'action publique. Et cette première présentation, ce premier temps de ma présentation servira d'entrée pour une réflexion sur le rôle de cette expression dans une nouvelle organisation du discours de l'action publique en général, dans la production d'un cadre cognitif et discursif qui serait le propre d'un paradigme en train de se développer et qui pourrait peut-être être saisi par là, et aussi peut-être par l'expression ou le vocable risque qui est utilisé, comme on l'a vu tout de suite, de manière aussi tout à fait importante. Ces deux termes, à la fois développement durable et risque, signaleraient peut-être la montée en puissance d'un nouveau paradigme dans lequel et pour lequel la démarche critique serait plus que problématique. Alors, commençons, si vous voulez bien, par la présentation très rapide d'une recherche que j'avais effectuée au milieu des années 2000 pour le compte du programme développement, le programme interdisciplinaire de recherche Ville durable du CNRS. Cette recherche donc s'appelait « Fonction et usage du syntagme au développement durable ». Alors, ça a consisté, cette recherche a rassemblé à peu près 750 discours de nature un peu différente, des déclarations ministérielles, des rapports parlementaires, des rapports techniques et d'un certain nombre d'organismes d'expertise, tels que le CERTU, par exemple, le Centre d'études techniques de l'urbanisme, ou alors le Conseil général des ponts et chaussées, en y adjoignant les articles du journal Le Monde sur la même période, cette période allant de 1998 à 2004, si je me souviens bien des bornes. Donc, sur la base de ces 750 discours, nous avons fait tourner un logiciel de lexicométrie qui s'appelle Weblex, qui nous a donné un certain nombre de résultats, mais finalement assez peu surprenant, le fait que, par exemple, il y a une forte présence dans ce discours d'un certain nombre de figures de rhétorique, assez usuelles dans tout ce qui est de tout ce qui touche à l'aménagement de l'espace, la présence de syllabes, de paronomases, de synecdoques, etc. On pourrait y revenir si ça vous intéresse. Mais ce qui était le plus important peut-être, c'est que le plus intéressant en tout cas, c'est que l'analyse de discours avait montré que finalement, au-delà même de l'aspect rhétorique et de l'aspect argumentatif, il apparaissait de manière assez prégnante une structure du discours en trois temps. Les discours sur le développement durable, en effet, s'organisent selon trois séquences bien différenciées. Un premier temps qui est celui de l'emphase, d'une certaine façon, une attaque ou un chapeau par la présentation d'un certain nombre d'enjeux globaux, généraux, sur le mode hyperbolique. Il y va de l'enjeu de la planète, il y va de l'avenir de nos enfants, etc. Souvent, cette phase était suivie par un ton beaucoup plus didactique, Qu'est-ce que c'est que le développement durable? Quels sont les arguments scientifiques et techniques que l'on mobilise pour élaborer notre propos? Et puis ensuite, une troisième phase qui, elle, procède d'une tonalité beaucoup plus modeste, voire assez déceptive par rapport à la phase initiale. Finalement, quand on passe à la phase des propositions concrètes, eh bien, il s'agit de faire un appel à la bonne volonté. Un appel à bonne volonté de tous et de chacun, avec une rhétorique du genre « les petits gestes du quotidien produisent des grands effets, et puis le développement durable, ça adviendra si on s'y met tous. Les petits ruisseaux forment les grandes rivières. » Donc, soyons attentifs à fermer le robinet, à trier nos déchets, etc. Le développement durable adviendra. Donc, cette séquence en trois temps, est relativement peu gratifiante, surtout quand on finit sur des recommandations un peu molles comme je viens de l'énoncer, a une fonction dans le domaine de la discursivité politique qui peut étonner. Donc on s'est interrogé pourquoi, malgré tout, ce discours est-il à ce point porté, alors qu'apparemment il ne permet pas d'adopter une posture très institutionnaliste, très volontariste ou décisionniste. Et donc on s'est interrogé en allant regarder finalement s'il ne fallait pas compléter cette analyse lexicale par un certain nombre d'interviews, d'enquêtes auprès des acteurs du terrain. On a donc complété notre approche par des enquêtes auprès d'un certain nombre d'acteurs, notamment dans les directions départementales de ce qui était encore l'équipement, qui était percuté et directement intéressé par la thématique du développement durable, puisque l'administration dont ils dépendent était en train de passer du ministère de l'équipement au ministère de l'écologie et du développement durable, et donc leur identité même était en train d'être transformée. Alors, il nous a apparu là que finalement les acceptions du développement durable étaient très, très variées et ses usages pouvaient être assez contrastés, mais il y avait un usage qui revenait de manière assez régulière, c'est que autour de la thématique du développement durable, eh bien, il est possible, d'une certaine façon, d'organiser de l'interlocution. Il est possible de produire des cénacles dans lesquels des mécanismes de légitimation croisée et de réassurance mutuelle sont possibles. Dans un contexte de décentralisation autour du développement durable, il est possible de fédérer des acteurs qui peuvent être en situation de collaboration, mais aussi, d'une certaine façon, de rivalité. Et donc, d'une certaine façon, au travers de la thématisation et de la problématisation via l'expression développement durable, il est possible, peut-être, à un jeu social proprement institutionnel de se revigorer, de se rassénérer, disait hier Guillaume Faburel, cette rassénération mutuelle, d'une certaine façon, pouvant être importante. Alors, c'est pas très surprenant, les résultats de cette enquête sur la fonction légitimatoire de syntagmes qui sont dans l'air du temps. Je crois que c'est quand même, si on essaye d'aller au-delà, assez intéressant de regarder pourquoi ce jeu de relégitimation peut se jouer justement au travers de cette expression, de ce syntagme, et de quoi il témoigne. C'est le deuxième moment de mon exposé. Et cet exposé portera sur la question particulièrement de la critique face à peut-être la modification d'un paradigme en cours aujourd'hui. On a observé en effet que dans ces cénacles où on porte et on discourt autour de la thématique du développement durable, l'approche critique était très fortement disqualifiée. D'une certaine façon, être critique, badiner, si j'ose dire, avec des choses aussi sérieuses que la transformation du climat, la gestion des risques, l'avenir de nos enfants, pour revenir à ça, c'est pas de mise. Et donc, dans ce jeu de légitimation croisée, il nous est apparu qu'il y avait fort peu de place pour la critique, il y avait fort peu de place pour une... pour à la fois la critique au sens de la dénonciation bien, ou de la révélation du processus de domination, premier sens du mot critique, mais aussi il y avait fort peu de place pour la critique entendue comme déconstruction, pour la critique entendue dans un sens peut-être plus kantien, qui consiste à examiner les conditions de possibilité de ce que l'on dit, de ce que l'on pense, de ce que l'on fait, etc. Donc, par l'intermédiaire de l'interrogation sur, d'une certaine façon, l'ostracisation de la démarche critique dans ces cénacles mobilisés autour de la thématique du développement durable, je crois que l'on peut peut-être avancer dans la spécification du paradigme dont il est question. En effet, si on revient au sens et au rôle de la critique et de la pensée critique dans l'histoire intellectuelle occidentale, pour le dire très vite, on sait bien par un certain nombre de travaux comme ceux de Reinhard Koselleck ou de Paul Hazard, que la critique est apparue au XVIIe siècle avec le rationalisme, avec la fin des autorités morales, avec le rejet de la pensée métaphysique, et donc avec, d'une certaine façon, l'introduction d'un certain nombre de valeurs et de représentations, d'une vision du monde, dans laquelle la pensée critique était directement associée avec une conception artificialiste du monde, c'est-à-dire que le monde est un artefact, autrement dit, le monde n'est pas une création divine, ni même simplement une donnée naturelle immuable, mais le monde est ouvert à l'activité transformatrice de l'homme. Et à partir du moment où cet artificialisme existe, eh bien, d'une certaine façon, il va de soi qu'il y a une réquisition morale. Si le monde est fabriqué par les hommes, eh bien, les hommes ont le devoir moral de le fabriquer pour qu'il soit meilleur. Et donc, pensée critique, artificialisme, progressisme, volontarisme politique, investissement sur la technique, tout cela va de pair. Et c'est construit donc un paradigme propre à la modernité dans lequel la pensée critique, mais aussi toute la conception, tout l'imaginaire de la transformation moderne du monde était déployé. Or, peut-être que le rejet explicite de la critique dans le développement durable, par les porteurs de la thématique du développement durable, nous signale que cette construction qui avait émergé au XVIIe, XVIIIe siècle est en train d'être battue en brèche, en train d'être remise en cause aujourd'hui. En effet, il nous semble en tout cas que s'il y a une forme d'allergie, en tout cas c'est... l'hypothèse que j'aimais, c'est le titre que j'avais donné à ma communication, s'il y a une forme d'allergie pour les cénacles qui se réunissent et se mobilisent autour de la thématique du développement durable, s'il y a donc une allergie face à la démarche et à la pensée critique, c'est peut-être aussi parce que, d'une certaine façon, la pensée critique ne peut plus être articulée sur une forme de projection dans un futur comme démarche de production d'un projet. De toute façon, critique et projet ne vont plus de soi. Vous savez que dans la pensée occidentale, d'une certaine façon, chez Hobbes, chez Rousseau, chez Adam Smith, en passant par Marx et jusqu'à Jean-Paul Sartre, d'une certaine façon, la sortie de l'âge de la rareté et l'entrée dans l'âge de l'abondance était la meilleure façon d'aller vers l'harmonie sociale, vers la cohésion, vers la pacification, etc. Or, il s'avère aujourd'hui que, d'une certaine façon, cette âge de l'abondance est devenue suspecte ou improbable, et donc, d'une certaine façon, le discours promissif, porteur de promesses, qui sous-tendait ou qui pouvait être à l'arrière-fond d'une démarche critique, a disparu. Puisqu'il n'y a plus de promesses, il n'y a plus, par une démarche critique, l'espoir de faire advenir, au travers d'une lutte contre la domination ou par un progrès de la raison via la déconstruction. Donc comme il n'y a plus la possibilité de faire une avancée vers l'âge de l'abondance, eh bien, la démarche critique elle-même se trouve peut-être dévalorisée. En tout cas, il nous a semblé que une version ou une pensée positive de la critique comme ouverture d'une porte, comme exploration d'un chemin alternatif vers un progrès, est de moins en moins perçue et conçue comme d'une manière positive, et que, d'une certaine façon, les conditions historiques, l'imaginaire dans lesquelles la pensée critique avait pu advenir, est en voie de remise en cause. Notamment parce que le rapport à l'histoire a changé, me semble-t-il, avec la thématique du risque et la thématique du développement durable, avec le principe de précaution et avec le principe de sobriété. Ce qui advient aujourd'hui, d'une certaine façon, c'est comme s'il y avait une vision de l'histoire en tant que jeu à somme nulle, voire à somme négative pour les tenants de la deep ecology, qui remplace la conception beaucoup plus optimiste comme jeu à somme positive qui était le propre de la pensée moderne. Et donc, dans un jeu à somme nulle, dans une vision de l'histoire comme jeu à somme nulle, la démarche critique est sans doute beaucoup moins opératoire, beaucoup moins indexée à une imagination, une tension vers un futur meilleur. Et d'une certaine façon, c'est un petit peu ce qui nous a semblé pouvoir être le facteur de ressaisissement et de mise en cohérence de cette sursollicitation de la thématique du développement durable par toute une série d'acteurs qui, d'ailleurs, y croient peu ou moins, ou prou, qui sont bien conscients de la multiplicité de l'écheveau de contradictions que porte cette notion, et donc qui sont dans une position de scepticisme. Mais en même temps, ce scepticisme est surmonté par une forme de panique concernant la possibilité même de continuer à produire un discours volontariste, un discours qui attribue une capacité et un rôle historique aux institutions. Or, les acteurs que nous avions interrogés, que nous avons enquêtés, auprès desquels nous avons enquêté, eh bien, d'une certaine façon, ils jouaient de leur peau. Tenir un discours sur le développement durable, c'était, malgré tous les scepticismes qui étaient en eux, et du fait de l'allergie à la critique qu'ils manifestaient, c'était d'une certaine façon pour eux la meilleure, peut-être la seule façon de continuer à produire un récit mobilisateur et justificateur de leur action, et plus que de leur action, de leur existence même en tant qu'acteurs qui peuvent prétendre avoir une prise sur l'évolution historique de la société sur laquelle et dans laquelle ils sont censés agir.
Merci.